Chapitre 46. Conclusion. Des correspondants de plusieurs parties de ce pays ont fréquemment demandé à l'auteur si le précédent récit était une fiction ou une réalité. Voici sa réponse à ces diverses enquêtes. Les incidents détachés de cette narration sont généralement authentiques. La plupart ont eu lieu sous l'observation immédiate, soit de l'auteur, soit de ses intimes amis. Les caractères ont été étudiés sur nature et des phrases entières sont rendues mot pour mot telles qu'elles ont frappé l'oreille de l'auteur ou celles d'amis dignes de foi qui les lui ont rapportées. La figure et tout le caractère d'Elisa ne sont que l'esquisse d'un portrait réel. L'auteur connaît de nombreux exemples de l'incorruptible fidélité, de la piété tendre et sincère, de l'inflexible loyauté qui caractérise l'oncle Tom. Parmi les événements du récit, les plus profondément tragiques, ceux qui offrent l'intérêt le plus romanesque, le plus saisissant, ne sont qu'un reflet exact de ce qui s'est passé dans la vie réelle. Entre autres, l'histoire de la mer traversant l'Ohio sur les glaces flottantes est un fait bien connu. La tragique mort de la vieille prue eut lieu à la connaissance personnelle d'un frère de l'auteur, alors principal commis-serveur d'une des grandes maisons de commerce de la Nouvelle-Orléans. C'est lui qui a connu le planteur présenté sous le nom de Legris. En parlant de ce misérable que dans sa tournée de recettes il venait de visiter, il m'écrivait « Il m'a fait tâter son poing, tout semblable à un marteau de forge ou à une masse de fer, en se vantant qu'il l'avait endurci à terrasser des nègres. En quittant sa plantation, j'ai respiré à pleine poitrine comme si je venais d'échapper de l'antre d'un ogre. » Il n'y a que trop de témoins vivants dans notre pays qui peuvent certifier que le tragique sort de Tom n'est pas une fiction. Les exemples de ce genre ne sont malheureusement point chose rare. Il suffira de rappeler qu'un des principes fondamentaux de la jurisprudence des États du Sud rejette, si un blanc est en cause, tout témoignage d'homme de couleur. L'on comprendra que, dans maintes occasions, la passion du maître peut l'aveugler sur son intérêt d'argent et que l'esclave peut avoir en lui assez d'énergie virile, assez de fermeté de principe pour résister jusqu'à la mort. Dans l'état de choses actuelles, la vie de l'esclave n'a de protection que celle que peut lui donner le caractère individuel du maître. Des faits, trop pénibles pour que l'on veuille s'y arrêter, parviennent accidentellement à la connaissance du public, et les commentaires qui s'en suivent sont à peine moins révoltants que les événements qui les provoquent. Ces cas, dit-on, sont rares. Ils n'ont lieu, selon toute probabilité, que de temps à autre. Il serait donc injuste d'en rien déduire quant à la pratique générale. Si les lois de la Nouvelle-Angleterre étaient arrangées de telle sorte qu'un patron pût, de temps à autre, torturer jusqu'à la mort un de ses apprentis, sans qu'il fût possible de traduire le coupable en justice, prendrait-on la chose avec cette étrange tranquillité? Dirait-on, ces cas sont rares, il serait injuste d'en rien déduire quant à la pratique générale? Non. Ce déni de justice, inhérent au système de l'esclavage, ne peut subsister que dans les États à esclaves. Les incidents qui ont suivi la capture du navire La Perle ont fait connaître partout l'impudeur scandaleuse des ventes publiques de belles mulâtresses et de carteronnes. Nous donnerons ici un extrait du discours de l'honorable Horace Mann, un des avocats de la Défense. Au nombre des 76 personnes, dit-il, qui tentèrent en 1848 de s'échapper du district de Colombie sur le schooner La Perle, dont les officiers m'ont pris pour défenseur, se trouvaient plusieurs florissantes jeunes filles pourvues de ces charmes, de ces séduisants attraits que les connaisseurs prisent si haut. Elizabeth Russell, l'une d'elles, tomba dans les serres d'un marchand d'esclaves et fut destinée aussitôt à être vendue au marché de la Nouvelle-Orléans. Les cœurs de tous ceux qui virent la pauvre jeune fille furent si vivement touchés qu'on offrit jusqu'à 1800 dollars de rançon. Plusieurs souscrivirent pour tout ce qu'ils possédaient d'argent, à peu de choses près. Le trafiquant fut inexorable. Élisabeth, envoyée à la Nouvelle-Orléans, fut dérobée par la miséricorde divine au sort funeste qui lui était réservé. Elle mourut à mi-chemin. Deux autres Carteronnes, toutes jeunes, nommées Edmundson, faisaient partie de la capture. Une sœur, plus âgée qu'elle, alla se jeter aux pieds du marchand qui les expédiait aussi à la Nouvelle-Orléans et la supplia pour l'amour de Dieu d'épargner ses jeunes victimes. Le misérable eut l'impudence de la plaisanter en énumérant les beaux habits, les riches toilettes que ses sœurs auraient sous peu. « Oui, dit-elle, cela peut réussir en cette vie, mais que deviendront-elles dans l'autre ?» Les deux jeunes Carteronnes partirent donc pour être vendues au grand marché. Plus tard, elles y ont été rachetées à des prix énormes et ramenées dans le Nord. N'est-il pas évident, après cela, que l'histoire d'Emmeline et de Cassie rentre dans le cours ordinaire des choses? Par un sentiment de justice, l'auteur tient à déclarer que la loyauté d'âme, la chaleureuse générosité de Sinclair, ne sont pas des qualités étrangères aux habitants du Sud. Une anecdote viendra à l'appui. Il y a peu d'années qu'un habitant du Sud se trouvait à Cincinnati avec un esclave favori qui le servait depuis l'enfance. Ce dernier profita de l'occasion, s'enfuit et se réfugia chez un Quaker connu par des services rendus aux Noirs en pareille occurrence. Le maître fulmina. Il avait traité son esclave avec une si constante indulgence, lui avait montré une confiance telle qu'il était convaincu que, pour s'enfuir ainsi, le jeune homme avait dû être influencé. Le gentleman se rendit chez le Quaker dans le premier feu d'une indignation qui ne dura pas néanmoins, car la candeur et la bonne foi étaient grandes chez lui. Un point de la question qu'il n'avait jamais envisagé lui fut mis sous les yeux, et il déclara immédiatement que si l'esclave exprimait en sa présence le désir d'être libre, il promettait de la franchir. L'entrevue eut lieu en conséquence, et Nathan fut interrogé par son jeune maître, qui lui demanda si jamais, en quoi que ce fût, il avait eu à se plaindre de la façon dont il était traité. « Non, maître, dit Nathan, vous avez toujours été bon pour moi. » « Eh bien, pourquoi veux-tu me quitter ?»« Maître peut mourir. Alors, à qui tomberai-je ? Non, je préfère avoir ma liberté. » Après un moment de réflexion, le maître répliqua. « À ta place, Nathan, je penserai probablement de même. Tu es libre. » Et sans retard, il dressa l'acte d'affranchissement, le remit aux mains du Quaker avec une somme d'argent destinée à aider le jeune homme dans sa nouvelle voie, et il y joignit une lettre remplie de sages et affectueux conseils adressés à son ancien esclave. Cette lettre a été quelque temps entre les mains de l'auteur de ce livre. Elle espère avoir rendu justice à la noblesse, à la générosité, à l'humanité qui distingue parfois les habitants du Sud. Mais si de tels exemples empêchent de désespérer de notre race, nous le demandons à tous ceux qui connaissent un peu le monde, des caractères de ce genre ne sont-ils pas toujours et partout des exceptions ? Durant la plus grande partie de sa vie, l'auteur a évité toute lecture, toute allusion qui eusse trait à la question de l'esclavage. Le sujet lui semblait trop pénible, et elle comptait sur l'accroissement des lumières et de la civilisation pour faire justice de ce reste de barbarie. Mais depuis l'acte de la législature, en 1850, quand, à son inexprimable surprise et à sa profonde consternation, elle a entendu des chrétiens, des hommes jouissant d'une réputation d'humanité, recommander comme un devoir de bon citoyen de rendre à leur chaîne les malheureux esclaves fugitifs, quand de toutes parts, dans les États libres du Nord, se sont multipliés, entre gens tendres, compatissants, estimables, des discussions sur le devoir du chrétien en pareilles circonstances, elle s'est dit « Ces hommes, ces chrétiens, ne savent pas ce que c'est que l'esclavage. S'il s'en doutait seulement, une telle question ne pourrait être soulevée. C'est alors qu'elle a désiré représenter, au vif et au vrai, dans une narration dramatique, l'esclavage tel qu'il est. Elle s'est efforcée de rendre pleine justice au côté le plus favorable. Quant à l'autre, ah, qui peindra jamais, sous ses véritables couleurs, ce qui ne saurait être révélé, ce qui se cacha, enfoui dans la vallée obscure, qui, sous l'ombre de la mort, s'étend de l'autre côté. À vous, habitants du Sud, hommes, femmes au cœur généreux, à vous dont la vertu, la magnanimité, la pureté de caractère éclatent d'autant plus qu'elles ont résisté à de sévères luttes, c'est à vous que l'auteur en appelle. N'avez-vous pas senti, au profond de votre âme et dans l'intimité de vos relations, que ce système exécrable engendre des infamies, des plaies, des ulcères, qui dépassent de bien loin ce que nous avons faiblement esquissé dans ce livre, ce que même l'on n'oserait pas indiquer? En peut-il être autrement? Est-ce à l'homme qu'un pouvoir tout à fait irresponsable peut être confié? Et la loi qui enlève à l'esclave sa voix comme témoin légal ne fait-elle pas de chaque maître un despote dont le pouvoir est complètement arbitraire? La conclusion pratique doit être claire à tous les yeux. Si parmi vous, hommes d'honneur et d'humanité, règne, comme nous le reconnaissons, une opinion publique dont l'appréciation loyale est un frein, ne règne-t-il pas une opinion publique d'une autre sorte chez les misérables, les bandits, les hommes vils, violents, grossiers? Ceux-ci n'ont-ils pas le droit légal de posséder autant d'esclaves que les premiers? Et les hommes justes et bons sont-ils en majorité dans ce monde? La traite des Noirs est assimilée aujourd'hui à la piraterie par la loi américaine. Mais un commerce d'esclaves, aussi régulièrement organisé que celui de la côte d'Afrique, est l'inévitable suite de l'esclavage américain. Et qui peut énumérer et les misères et les horreurs? L'écrivain n'a donné qu'une esquisse effacée, une faible ébauche des angoisses désespérées qui, à ce moment même, déchire des milliers de cœurs, disperse des milliers de familles et pousse à la frénésie et au désespoir une race sensitive et sans défense. Ils vivent, ceux qui connaissent des mères que ce trafic odieux a contraintes à égorger leurs enfants par amour maternel. Elles cherchaient dans la mort un abri à des maux pires que la mort. Rien de tragique, rien d'affreux ne peut être rêvé, raconté, conçu, qui ne dépasse l'effroyable réalité de scènes qui, tous les jours, à toute heure, ont lieu sur nos rivages et sous la protection des lois américaines à l'ombre de la croix du Christ. Et maintenant, ô mes concitoyens, hommes et femmes de mon pays, est-ce là une chose frivole qui se puisse excuser et passer sous silence? Fermiers du Massachusetts, du New Hampshire, du Vermont, du Connecticut, qui lisez ce livre à la vive clarté de vos foyers d'hiver, vaillants marins au cœur chaud, courageux armateurs du Maine, est-ce là ce que vous prétendez protéger et encourager? Généreux habitants de New York, fermiers du fertile et riant Ohio, et vous, pionniers des larges États de l'Ouest aux prairies sans limite, répondez, est-ce là ce que vos lois viennent défendre et garantir? Et vous, mères américaines, vous qui, sur le berceau de vos enfants, avez ouvert vos cœurs à la sympathie humaine dans tout ce qu'elle a de plus ardent et de plus pur, au nom du saint amour que vous portez aux chers petits nourrissons, au nom des joies célestes que vous donne sa belle enfance, innocente et folâtre, au nom de cette piété maternelle et dévouée qui va le guider à mesure qu'il grandira, au nom des tendres sollicitudes qui accompagnent ses premiers pas dans la vie, au nom des ardentes prières poussées au ciel pour l'éternel salut de son âme, je vous adjure, je vous supplie, songez à la mère qui, pénétrée de toutes vos anxiétés, brûlant du même amour, n'a pas le moindre droit légal à protéger, à garder, à élever l'enfant de ses entrailles. Au nom de l'heure fatale où votre petit bien-aimé commença à languir sur votre sein, par ces regards mourants que vous n'oublierez plus, par ces derniers cris qui torturaient votre cœur quand vous ne pouviez plus soulager ni sauver, par la désolation de ce berceau vide, de cette chambre muette. Oh, je vous en supplie, ayez pitié de ces mères privées de l'enfant de leur sein par le commerce légal de l'Amérique. Et dites, ô mère, sont-ce là des choses à soutenir, à encourager ou à passer sous silence? Les habitants des États du Nord se laveront-ils les mains, comme au temps jadis, du sang de ce juste? Diront-ils qu'ils n'ont rien à y voir, rien à y faire? Plût à Dieu qu'il en fût ainsi. Mais cela n'est point vrai. Les citoyens des États libres ont défendu et encouragé le système. Plus coupables devant le divin tribunal pour cette participation que ne le sont leurs frères du Sud, car eux, ils n'ont à alléguer ni l'excuse de l'éducation, ni celle de l'habitude. Si toutes les mères des États libres s'étaient émues dès l'origine, si elles avaient été touchées comme elles auraient dû l'être, leurs fils n'eussent jamais été détenteurs d'esclaves, et ne passeraient pas proverbialement pour être les maîtres les plus durs. Leurs fils n'eussent pas participé à l'extension de l'esclavage dans notre nation. Ils n'eussent pas trafiqué d'âmes et de corps humains comme de toute autre denrée. Il y a des multitudes d'esclaves temporairement possédés et revendus par des négociants des villes du Nord. Après cela, rejettera-t-on le crime et l'opprobre de l'esclavage à la charge seulement du Sud? Les hommes du Nord, les mères du Nord, les chrétiens du Nord ont quelque chose de plus à faire qu'à dénoncer leurs frères du Sud. Ils ont à sonder leur propre ulcère. Mais que peut un individu dans son isolement? Sa conscience le lui dira. Il est une chose, du moins à la portée de chacun, c'est de voir avec justesse et de se pénétrer d'un sentiment droit. Une atmosphère magnétique environne chaque être humain, et celui qui pense avec justesse, avec énergie et droiture, sur les grands intérêts de l'humanité, est par cela même un des bienfaiteurs de sa race. Il a respiré et il exhale la vérité. Étudiez donc vos sympathies sur ce sujet. Sont-elles en harmonie avec celles du Christ, ou se laissent-elles influencer et pervertir par les sophismes d'une politique mondaine? Allons plus loin. Vous avez quelque chose de plus à faire, chrétiens et chrétiennes du Nord. Vous pouvez prier. Croyez-vous à l'efficacité de la prière, ou ne serait-elle plus pour vous qu'une obscure tradition apostolique? Vous priez pour les païens des rives lointaines, priez pour ceux qui habitent chez vous. Priez aussi pour ces chrétiens infortunés dont la foi doit courir les chances du commerce, dont la persévérance religieuse et morale devient souvent impossible, à moins que d'en haut ne leur vienne l'énergie et la grâce du martyr. De plus encore, sur les limites de nos États libres, surgissent çà et là les restes épars de familles brisées, hommes, femmes, échappés, grâce à des miracles de la Providence, aux terribles houles de l'esclavage. Inférieurs comme science, souvent infimes dans leur constitution morale, grâce au système qui renverse et pervertit tous les principes du christianisme et de la moralité, ils viennent chercher refuge parmi vous et demandent éducation, instruction, religion. Que devez-vous à ces infortunés, ô chrétiens? Quoi, ne leur devez-vous pas ce que tout Américain doit à la race africaine, en réparation des maux entassés sur elle par l'Amérique même? Les portes de vos églises et de vos écoles leur resteront-elles fermées? Chaque État se soulèvera-t-il pour les secouer loin de lui? L'Église chrétienne laissera-t-elle jeter l'injure et l'opprobre à la face des humbles et des souffrants? Se reculera-t-elle devant la faible main qui l'implore? Et son silence encouragera-t-il la cruauté qui les chasse de nos frontières? S'il en est ainsi, c'est la désolation de la désolation. S'il en est ainsi, l'Amérique doit frémir, car le destin des nations est dans les mains de celui qui n'est que miséricorde et tendre pitié. » Nous n'avons que faire d'eux, dites-vous, qu'ils aillent en Afrique. Que la providence divine ait préparé un refuge à cette race opprimée, c'est un fait, certes, des plus remarquables et d'une immense portée. Mais est-ce un motif pour que l'Église du Christ refuse à des proscrits les garanties qu'elle fait profession d'accorder à quiconque les réclame? Inonder tout à coup l'Ibéria d'une population ignorante, inexpérimentée, à demi-barbare, à peine échappée au fer, ce serait prolonger indéfiniment cette période de luttes et d'épreuves inhérentes au commencement des grandes entreprises. Non, mais que l'Église du Nord accueille ces pauvres souffrants avec l'esprit de l'Évangile. Qu'elle les admette aux avantages de l'éducation religieuse de notre société républicaine. Qu'elle leur ouvre nos écoles jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à quelque maturité intellectuelle et morale. Qu'alors elle les assiste dans leur passage vers ces rives où ils pourront pratiquer les leçons que l'Amérique leur aura données. Il est dans le Nord une réunion d'Américains, peu nombreux comparativement, qui ont agi ainsi et vu en résultat des hommes, d'abord esclaves, acquérir rapidement un état, une réputation, une éducation. Des talents fort remarquables, si l'on tient compte des circonstances, se sont développés. Et quant aux traits de probité, d'humanité, de tendresse, quant aux dévouements héroïques, aux sacrifices sublimes faits pour arracher à l'esclavage des amis, des frères, ils sont hors ligne, surtout si l'on songe à l'influence funeste sous laquelle tant de vertus se sont fait jour. Celle qui a écrit ces pages a vécu durant plusieurs années sur les frontières des États à esclaves. Elle a eu par conséquent de nombreuses occasions d'observer ceux qui échappaient à leur chaîne. Plusieurs d'entre eux ont vécu chez elle comme domestiques et, à défaut d'autres institutions qui les voulut recevoir, elle les accueillit plus d'une fois dans son école de famille avec ses propres enfants. D'après son expérience personnelle, d'après le témoignage des missionnaires, vivant parmi les esclaves fugitifs au Canada, elle peut affirmer que la capacité et l'intelligence de cette race promettent infiniment. La première aspiration de l'esclave émancipé est pour l'éducation. Il n'est rien qu'il ne fasse, rien qu'il ne soit prêt à donner pour l'instruction de ses enfants. D'après ce que l'auteur a observé elle-même, d'après le témoignage des professeurs qui ont enseigné de jeunes nègres, leur intelligence est vive, ils apprennent à merveille. Le succès des écoles fondées pour eux à Cincinnati par de bienveillants individus en fait foi. Les faits suivants, donnés sur l'autorité du professeur C. E. Stove à Lane Seminary, dans l'Ohio, ont trait à des esclaves émancipés et prouvent la capacité de la race nègre, même lorsque les individus n'ont rencontré aucun encouragement ou assistance particulière. Nous ne donnons ici que l'initiale des noms. Tous ceux dont il s'agit habitent Cincinnati. B. Fabricant de meubles, depuis 20 ans dans la ville, riche de $10,000, fruit de son travail. Anna Baptiste. C. Pure race noire, enlevée en Afrique, vendue à la Nouvelle-Orléans. Libre depuis 15 ans, a payé pour se racheter $600. Il est fermier et possède plusieurs fermes dans l'État d'Indiana. Presbytérien. Riche probablement de 15 à 20 000 $ gagnés par son industrie. K. Également noir. Spéculateur en terrain. Possède bien $30,000. Peut avoir 40 ans. Libre depuis 6 ans. A payé $800 pour acheter sa famille. Membre de l'église des Anabaptistes. A reçu un legs de son maître qui l'a fait valoir. G. Pure race noire. Marchand de charbon, âgé d'environ 30 ans. S'est racheté 2 fois ayant été fraudé d'abord d'une somme de $1,600. Il a gagné tout cet argent par ses efforts personnels, une bonne partie tandis qu'il était encore esclave, louant et payant à son maître ses journées, qu'il employait ensuite à faire ses propres affaires. C'est un garçon beau et vraiment distingué. W. aux trois quarts nègres, barbier et garçon d'hôtel. Élevé au Kentucky. Libre depuis 18 ans, a payé pour se racheter, lui et sa famille, plus de $3,000. Et riche d'environ 20 000, tout de ses gains. Il est diacre de l'église des Anabaptistes. G. D. aux trois quarts noirs. Badigeonneur. Du Kentucky. Libre depuis 9 ans. A payé $1,500 pour se racheter, lui et sa famille. Mort depuis peu, âgé de 60 ans, et riche de $6,000. Le professeur Stove ajoute : excepté G, tous ces noirs m'ont été personnellement connus plusieurs années, et je puis garantir l'exactitude de mes renseignements. L'auteur se rappelle à merveille une femme de couleur, âgée, blanchisseuse, dans la famille de son père. La fille de cette femme épousa un esclave. Intelligente et fort active, elle parvint, à force d'industrie, d'économie et en se privant de tout, à ramasser $900 pour acheter son mari, argent versé à mesure entre les mains du maître. Il ne manquait plus que $100 pour compléter la rançon lorsque le mari mourut. Jamais sa veuve n'est rentrée dans cet argent. Il n'y a là qu'une bien petite part de la multitude d'exemples qui pourraient être produits de l'abnégation, du dévouement, de l'énergie, de la patience, de la probité que déploie l'esclave parvenu à s'affranchir. Qu'il soit tenu compte aussi à ceux qui sont arrivés à conquérir une position sociale et quelque aisance, des difficultés, des découragements qu'il leur a fallu surmonter et combattre. L'homme de couleur, d'après la loi de l'Ohio, n'est pas même admis à voter et jusqu'à ces derniers temps ne pouvait pas, dans un procès, témoigner contre un blanc. Ce n'est pas dans l'Ohio seulement, c'est dans tous les États de l'Union que nous voyons des hommes qui n'ont brisé leur fer que de la veille et qui, grâce à une énergie que l'on ne saurait trop admirer, ont fait eux-mêmes leur éducation, s'élever à des positions sociales hautement respectées. Nous citerons comme exemple très connu Pennington parmi les ecclésiastiques, Douglas et Ward parmi les écrivains. Si tant de causes de découragement et de souffrance n'ont pu annuler cette race, à quoi n'arrivera-t-elle pas lorsque l'Église chrétienne l'accueillera avec l'esprit de charité du Sauveur? Nous sommes dans un temps où les nations s'agitent, ébranlées. Un souffle puissant est au dehors. Il remue et soulève le monde comme en un tremblement de terre. L'Amérique est-elle en sûreté? Toute nation qui recèle en ses flancs une grande et flagrante injustice ne porte pas en elle les éléments d'une terrible et suprême convulsion? Pourquoi cette puissante influence éveille-t-elle ainsi en toute nation et en toute langue ces gémissements inarticulés vers la liberté et l'égalité de l'homme? Église du Christ, lis les signes des temps. Ce souffle puissant, n'est-ce pas l'esprit de celui dont le royaume est encore à venir, celui dont la volonté sera faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel? Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Car ce jour vient embrasé comme une fournaise, il se hâtera d'être témoin contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, de la veuve et de l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, et il brisera en pièces l'oppresseur. Ces mots ne s'adressent-ils pas à la nation qui porte et recèle en ses flancs une si criante injustice? Chrétiens, lorsque vous dites chaque jour « Que ton règne nous arrive », pouvez-vous oublier que la redoutable prophétie associe l'heure de la vengeance à l'heure du rachat? Le jour de grâce nous est encore accordé. Le nord et le sud sont également coupables devant Dieu, et l'Église chrétienne a un pesant compte à rendre. Ce n'est point en s'unissant pour protéger l'injustice et la cruauté, pour mettre en commun l'amas de ses péchés, que l'union sera sauvée. C'est par le repentir, la justice, la miséricorde. Car l'éternelle loi, qui fait que la pierre de meule s'enfonce dans l'océan, est moins infaillible encore que la loi plus haute qui fait descendre la colère du Tout-Puissant sur les nations coupables d'injustice et de cruauté. Fin de la case de l'oncle Tom.
Children so dear that I have